La vie est un art.
Quelles sont les clés pour discerner ? Notre vie est tissée de choix, petits et grands. Comment faire des choix conscients et libres ? Comment discerner ? Françoise Keller, vous êtes formatrice depuis des années en communication non violente et dans cette pratique de la CNV, vous avez repéré des clés dans votre pratique du discernement. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce que vous avez découvert ?
Oui, alors il y en a plusieurs, hein, mais par exemple, la première clé, c'est l'écoute du corps. J'y suis sensible, notamment quand je rencontre effectivement des personnes qui, par exemple, font des burn-out, qui tout d'un coup se rendent compte que le corps ne veut plus. Et du coup, je me dis, le corps, il a quand même un impact important. Et aussi sensible quand je vois qu'il y a des personnes, et j'en fais partie, c'est-à-dire quand j'ai démarré la CNV, qu'on me demandait comment je me sens dans mon corps, je ne savais pas. J'avais appris à raisonner, j'avais appris à réfléchir, mais je n'avais pas appris à écouter mon corps. Et que notre corps, en fait, il nous donne beaucoup d'indications de est-ce qu'on est en train de faire est satisfaisant ou pas satisfaisant. Je trouve que c'est une indication intéressante, c'est-à-dire que quand le choix qu'on est en train de faire, quand ce qu'on est en train de vivre est satisfaisant, on est plutôt dans l'expansion, la joie, l'enthousiasme, le plaisir, la paix. Et que quand on fait des choix qui ne sont pas satisfaisants, on va être dans quelque chose de plus contracté, qui peut être le cœur qui bat, qui peut être la gorge nouée, l'estomac serré, la tristesse, le manque d'énergie, le manque d'enthousiasme. Voilà. Et dans les choix complexes, souvent on est tiraillé en fait. C'est-à-dire que on va être plutôt dans quelque chose de la confusion ou du tiraillement. C'est-à-dire que, en fait, il y a une partie qui est contente et une partie qui... Voilà, je peux adorer mon travail et en même temps me rendre compte que, par exemple, je n'ai plus tout à fait l'enthousiasme que j'avais au début. Donc, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant, qu'il faut écouter.
Il faut écouter ses ressentis.
Eh bien oui, parce que ses ressentis... Voilà, je prends par exemple l'exemple très concret que j'ai moi. Je suis passionnée par mon travail, donc... Chaque fois que je fais une formation, un accompagnement, j'ai toujours de la joie. Mais donc, je pourrais me dire, pas de question, tout va bien. Mais je me rends compte qu'à certains moments, parce que j'ai pris trop d'activités ou parce que là, je viens de passer une journée sur mes factures ou sur le côté administratif ou le data doc pour la formation, des choses comme ça, eh ben, je vois que j'ai moins d'enthousiasme. J'ai un accompagnement cet après-midi et j'ai moins de joie que d'habitude. Ces petits signaux, c'est des fois des toutes petites choses qui vont se passer dans le corps ou qui vont se passer dans ce qu'on appelle les ressentis. C'est comme une petite lumière qui s'allume, qui me dit « Attention là, Françoise, il y a quelque chose qu'il faut regarder. » Et si j'écoute ça, je me rends compte que c'est peut-être quelque chose du respect de mon rythme, c'est peut-être quelque chose de l'équilibre entre mes relations professionnelles et puis mes relations familiales. C'est peut-être quelque chose de retrouver du sens et de plus dire oui à des accompagnements qui font vraiment sens pour moi et de dire non à des accompagnements qui ont moins de sens. Peut-être c'est quelque chose de l'équilibre entre le donner-recevoir avec la personne que j'accompagne. Et ça, si je le repère, ça va me permettre. Je me souviens par exemple d'un exemple très concret où je suis allée voir un client en lui disant « J'ai beaucoup de joie à travailler avec vous, ça a beaucoup de sens. » Mais là, je vois que le dernier stage, j'ai trouvé qu'il y avait... J'ai donné beaucoup et qu'il y avait un équilibre qui n'est pas toujours, donc pas tout à fait bon pour moi. Et donc, j'aimerais voir comment on peut faire la suite du projet pour que je continue à avoir de la joie à venir chez vous. Et ça a été magnifique parce qu'on a arrivé à améliorer le projet en fait en voyant comment je pouvais rester avec ce client, mais d'une manière qui soit plus satisfaisante pour moi et finalement pour lui.
Il y a le corps, mais il y a aussi la raison. La raison qui vous dit, de toute façon, vous ne pouvez pas tout avoir. Dans tout ce qu'on fait, il y a une part de plus facile. Par exemple, le côté administratif, il faut le faire, quoi qu'il en soit.
Alors, la raison. Alors, les pensées, c'est intéressant parce que si j'écoute jamais mes pensées, il y a des fois un discours de suspicion de toutes nos pensées. Alors, on va écouter que les corps, les ressentis, on n'écoute pas le raisonnement. Voilà. Moi, j'aime aussi le raisonnement, j'aime aussi me rappeler mon histoire, j'aime aussi réfléchir.
Et je suis pas que dans le ressenti. De scientifique,
j'ai une formation
redire,
de scientifique, je suis ingénieure, bien ingénieure, et voilà, j'aime les choses,
carré.
J'aime réfléchir à quand même quelque chose qui est de ma vérité intérieure, on va dire. Dans notre mental, en fait, il y a deux choses. Il y a les jugements, et les jugements, par exemple, je peux me dire, non, ce travail, il est pas intéressant, ou cette discussion, elle a pas d'intérêt, ou le dîner qu'on a passé hier soir, ça s'est vraiment pas bien passé. Ces jugements-là, ces jugements moralisateurs, je peux les écouter parce que derrière, en fait, ils vont me donner l'indication de mes sentiments et de mes besoins. Si je me dis hier soir, le repas, c'est pas bien passé, Je vais me rendre compte qu'en fait, oui, parce qu'en fait, j'aimerais plus de que chacun puisse s'exprimer, qu'on s'écoute. Et du coup, si je prends conscience de ça, je peux proposer que le prochain repas, on s'écoute. Ou moi, je peux déjà faire attention à écouter les autres. Mais il y a aussi que dans les pensées, parfois, on réagit non plus à ce qui est en train de se passer, mais on réagit à ce qu'on se raconte. Par exemple, je reste dans mon boulot, pas parce que je ne peux pas trouver un autre boulot, mais parce que je me raconte que je ne peux pas en trouver. Mais ce n'est pas factuel, en fait. Et là, c'est dangereux, en fait, parce que je me mets à réagir non pas à la réalité, mais je me mets à réagir à ce que je me raconte. C'est ennuyeux, parce que je risque de faire des choix qui ne sont pas en lien avec la réalité.
Mais justement, le réel, c'est par exemple faire ces démarches administratives aussi.
Alors, par exemple, si je me raconte, je n'ai pas le choix, je suis obligée de faire mes démarches administratives. Eh bien, moi, je suis ravie d'avoir rencontré dans ma vie des personnes qui m'ont dit... En fait, quand j'avais cette pensée, j'avais deux pensées. J'avais une pensée, on n'a pas le choix, on doit faire les travaux administratifs. Et j'avais une autre croyance qui est que le travail administratif n'intéresse personne. Donc, il faut que je le fasse. Je ne trouverai jamais quelqu'un pour le faire. Mais je remercie d'avoir rencontré des gens comme Jeanne, comme Raphaël, qui m'ont fait découvrir qu'il y a des gens qui adorent le travail administratif. Ça les passionne. Derrière la croyance, le travail administratif, il est obligé. C'est pas qu'il est obligé, c'est que ça contribue à ma sécurité, à ma tranquillité et du coup à ma confiance. Je sais que si demain je suis contrôlée, j'ai mis tout ce que j'ai pu pour vivre le contrôle de manière sereine. Donc ça contribue à ma sérénité. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'était pas forcément à moi de le faire et que je pouvais très bien quelqu'un qui allait avoir de la joie à le faire.
Oui, parce que financièrement, vous pouvez.
Alors, parce que financièrement, je le peux ou parce que je vais trouver un système de troc ou parce qu'effectivement, je vais faire le choix de l'énergie que j'aurais mis dans l'administratif, je préfère mettre cette énergie dans un accompagnement et l'argent que je vais gagner dans l'accompagnement, le donner à la personne qui va faire l'administratif.
Il faut être ingénieux.
Créatif, ingénieux, oui, je crois. Et moi, j'aime bien, en fait, dans la CNV, Marshall Rosenberg, quand il a créé la CNV, il est parti d'un postulat, il a dit « à partir de maintenant, je choisis de croire que nous avons toujours suffisamment de créativité pour prendre soin de nos besoins ». Et qu'on peut être limité par les ressources, mais jamais par notre créativité.
La vie est un art, Bénédicte Draillard.
Dans la communication non violente, on parle beaucoup, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, des besoins. Écouter ses propres besoins avant de faire un choix, c'est important. Mais quels sont ces besoins, par exemple ?
Alors voilà, on parle des besoins au sens vraiment fondamental de l'être humain, c'est-à-dire ce qui nous met en mouvement, ce qui nous pousse à agir, à chercher à être plus vivant. Donc les besoins ne sont pas liés à une chose, à une personne. On va avoir des besoins physiologiques, les besoins de mouvement, d'aération, d'évacuation. Et puis on va avoir des besoins de lien social, d'appartenance, de contribuer au bien-être de l'autre. Ça, c'est vraiment un besoin important. Des besoins d'autonomie, d'identité, d'affirmation de soi. Des besoins de spiritualité, de célébration. Des besoins de partage. Voilà, c'est tout ce qui nous meut. Tout ce qu'on fait, en fait, on le fait toujours pour tenter de satisfaire des besoins.
Et il y a une hiérarchie dans ces besoins ?
Pour Marshall Rosenberg, non. Et j'aime cette idée que, peut-être parce que, voilà, quand moi j'ai des modèles, après ça me limite, j'aime cette idée qu'à chaque moment, je peux essayer de regarder quels sont les besoins sans mettre de hiérarchie. Abraham Maslow, à un moment donné, avait parlé aussi de besoins, avait mis une hiérarchie. Puis il a remis cette question, cette hiérarchie, à la fin de sa vie en disant que c'était peut-être pas finalement si hiérarchisé. Et en particulier, moi je suis sensible au fait que les associations qui travaillent avec les plus démunis observe qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie. Voilà, les gens vont parfois nourrir leurs besoins de spiritualité, leurs besoins
avant
de partage, de célébration, avant leurs besoins de sécurité.
Et d'autres fois, non, il faut d'abord la sécurité avant de pouvoir penser au spirituel, par exemple.
Voilà. Ouais. Et je vois dans le monde aujourd'hui des gens qui font des actes courageux, qui posent des actes courageux au détriment de leur sécurité, qui sont prêts à prendre des risques pour leur vie parce qu'ils veulent contribuer à, par exemple, arrêter un conflit, contribuer à la réconciliation des personnes et ils sont prêts à mettre en danger leur vie.
La vie est un art.
François Keller, ensemble, nous parlons donc du discernement, comment faire un choix. Alors, on va prendre des exemples très, très concrets parce que quelquefois, on a des besoins qui sont un peu contradictoires. Par exemple, allez, c'est l'heure d'aller faire mon jogging, mais en même temps, je suis fatiguée, je ferais bien une sieste.
Ok. Alors, c'est vrai que nous, on a un postulat et que j'ai jamais expérimenté qu'il soit contradictoire. Donc, on va essayer. Hein. Les besoins ne sont jamais contradictoires, en fait. Donc, j'ai envie d'aller faire un jogging. J'ai envie d'aller faire un jogging parce que ça nourrit des besoins. Ça nourrit des besoins de mouvement, de prendre soin de ma santé, d'évacuation peut-être du stress, de dépassement de moi. Voilà, ça, c'est les besoins que je nourris en allant faire du jogging. Ah, en même temps, là, tout de suite, je suis fatiguée et je me rends compte que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me détendre. Alors, j'ai à la fois besoin de prendre soin de ma santé et besoin de me détendre. Et là, j'ai plein de choix possibles. Je peux faire le choix de faire une sieste et d'aller faire mon jogging plus tard. Ou je peux faire le choix de faire mon jogging et pendant mon jogging, je vais mettre une musique très douce pour prendre soin de mon besoin de détente. Ou peut-être qu'au lieu d'aller faire mon jogging, je vais aller marcher. Ou peut-être même je vais faire une marche conscience, une marche méditative. Ou peut-être que finalement je vais faire du yoga, parce que comme ça, ça me permettra de prendre soin de ma santé et en même temps d'être quelque chose de plus détendu.
Donc c'est le « et » qui est important pour vous, hein. C'est pas contradictoire, c'est « je peux faire les deux ».
Ben moi, j'aime cette ouverture qu'offre la CNV, qu'à chaque moment, si je vais vraiment suffisamment profond dans mes besoins, il y a un moment où, waouh, il y a quelque chose qui s'ouvre et je peux nourrir ce besoin et ce besoin-là. Pas forcément au même moment, pas forcément avec la même personne, pas forcément de la manière que j'imaginais. Mais oui, c'est toujours possible.
Alors là, on parle des petites choses, des petits choix, mais il y a aussi des grands choix dans la vie. Quand on doit discerner pour des grands choix dans sa vie, il ne faut pas un peu de temps pour réfléchir, et puis est-ce qu'il n'y a pas des lieux plus propices aussi pour poser les choses?
Alors c'est sûr que quand j'ai un choix important à faire, c'est important de me mettre dans des conditions pour pouvoir le faire, ce choix. Par exemple, on a pu tous observer que quand on a un choix difficile à faire, des fois on a envie de, par exemple, d'en parler à d'autres. Sauf que les autres, quand ils vont nous donner des conseils, ils vont pas parler de nous, ils vont parler de leurs besoins. Et vous pouvez voir, si par exemple vous hésitez à quitter un job, selon les personnes avec qui vous allez en parler, ceux qui ont besoin de sécurité vous ont dit « Ah non, surtout pas, voilà. » Ceux qui ont vécu des choses difficiles, par exemple, qui ont eu du mal à trouver un travail, ça va leur rappeler leur propre histoire. Et du coup, même nos bons amis qui cherchent à nous donner des conseils, souvent, ils nous donnent des conseils non pas à partir de nous, ce dont on a besoin, mais à partir d'eux. Voilà. Et du coup, effectivement, quand on a un choix important à faire, ça peut être important de, en tout cas si on essaye de trouver des personnes de soutien, de trouver des personnes qui savent faire ça et qui savent mettre de côté ce qui se passe pour elles pour être vraiment à notre service. Des accompagnateurs, des coachs, voilà. Et puis après, effectivement, ben, ça demande un espace, ça demande déjà un espace dans notre corps, ça demande de retrouver un espace de paix. J'aime bien dire, moi, que quand on a à discerner, on peut se relier à « il y a quelque chose en nous, il y a un espace en nous » qui est paisible, qui est tranquille, alors ça rejoint les pratiques spirituelles, hein, qui est tranquille et qui est disponible pour accueillir avec bienveillance les différents mouvements qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc prendre des moyens pour retrouver cet espace de paix, alors ça peut être par la méditation, ça peut être par le centrage, ça peut être par la respiration, ça peut être par s'offrir un week-end au calme dans un monastère, voilà, mais trouver cet espace de paix où je vais pouvoir accueillir mes différents mouvements intérieurs. Voilà. Et après, c'est effectivement se donner l'espace pour voir que ben, si je fais le choix A, c'est parce que ça nourrit des besoins. Si je fais le choix B, ça nourrirait tel besoin. Pour arriver à cet espace où je peux regarder avec bienveillance ces besoins-là et ceux-là et trouver ma créativité pour le choix que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de l'ensemble de ces besoins?
Et les fameuses colonnes positives, négatives, est-ce que ça vaut le coup de les faire?
Alors, les fameuses colonnes positives et négatives, elles ont un avantage au sens où elles permettent de clarifier des choses. Mais même, c'était amusant, récemment dans un stage, quelqu'un m'a dit « Ah, mais même la phrase « choisir, c'est renoncer », cette idée-là, elle est dans ce qu'on appelle en CNV le monde de chacal, le monde du mental, où c'est A ou B. Alors, ça peut être utile de dire « Voilà, j'achète une maison, voilà les avantages d'acheter cette maison ». Ça me permettrait d'être dans la nature, ça me permettrait d'inviter des amis, ça me permettrait de pouvoir souffler, voilà, tous les avantages. Puis j'ai une autre colonne, tous les inconvénients, ben ça me rajoute du boulot, ça me rajoute du charge, il va falloir faire le ménage, ça va...
Est-ce que ça vaut le coup de, ou non de mettre de l'argent
encore,
dans une maison secondaire
encore investir dans une maison que je ne vais pas utiliser tout le temps, et puis peut-être ça va m'empêcher de voyager, parce qu'une fois que j'aurai cette maison, je n'oserai plus partir ailleurs, voilà. Donc je peux faire ça. Mais après, ça c'est le mental qui me dit tous ces arguments-là. C'est après regarder dans chaque colonne et voir quels sont les besoins qui seraient nourris en fait, dans chaque colonne. Et j'aime bien dire, c'est vraiment de voir comment je me sens, les sentiments agréables, les sensations agréables. Ah, si j'avais cette maison, ça me donnerait tellement de joie. Et les besoins de partage, les besoins de ressourcement. Inviter des amis, c'est pas vraiment un besoin, mais derrière, qu'est-ce que ça nourrit d'inviter des amis? Ben, d'ouverture, de partage, d'échange.
De créativité.
De créativité, voilà. Donc ça, c'est les besoins que je nourris. Et puis l'autre côté, quel besoin ça nourrit de ne pas acheter cette maison? Ben, de liberté, peut-être de sens par rapport à la question d'éthique, de légèreté, parce que je n'aurai pas à nouveau un crédit sur le dos. Et du coup, quand je vais voir que j'ai à la fois besoin de ressourcement et en même temps de légèreté, que j'ai besoin à la fois de partage et à la fois de liberté, ben, je vais faire un choix. Et moi, ce que j'aime dire avec la CNV, c'est qu'il y a une garantie que quel que soit le choix que je fais, j'ai un engagement avec moi-même de prendre soin de mes besoins. C'est-à-dire que je n'ai pas renoncé, justement. Si j'achète la maison, je vais être attentive à faire un choix qui fait que j'achète la maison, mais qu'en même temps, je vais prendre soin de mon besoin de liberté. Donc peut-être que je vais calculer mon budget pour quand même pouvoir, de temps en temps, me dire bah, « je ne vais pas dans la maison, je vais voir autre chose ». Ou mon besoin d'éthique, peut-être je vais acheter la maison et puis je vais parfois la prêter à des personnes qui en ont besoin. C'est des exemples, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis si finalement je fais le choix de ne pas acheter la maison, eh ben, je vais quand même faire le choix dans mes prochains, de trouver des stratégies pour peut-être que l'organisation de mes vacances ou de mes week-ends me demande moins d'énergie et peut-être... Je vais
louer
d'autres amis.
Des gîtes chaque année le même, si on veut avoir une certaine sécurité.
Voilà. Ou peut-être qu'avec d'autres amis qui ont aussi envie d'une maison secondaire, on va peut-être finalement choisir d'acheter quelque chose ensemble et qu'on va faire un week-end sur trois. Donc voilà, c'est quel que soit le choix que je vais faire, à certains moments on priorise tel besoin par rapport à un autre, mais le besoin que je ne priorise pas, comment je vais faire pour m'en occuper quand même, quoi?
Ça veut dire aussi s'informer à fond aussi sur les conséquences d'un choix.
Alors oui, ça suppose, et ça j'aime bien que vous releviez ça, c'est qu'un choix, c'est dans l'instant présent, mais ça suppose effectivement, quand je vais faire mon choix, d'assumer les conséquences de mon choix. C'est-à-dire que voilà, si je fais le choix d'acheter, ben, j'assume les conséquences du prêt que je vais avoir et des mensualités. Si je fais le choix de faire un enfant, ben j'assume les conséquences, que l'enfant il sera comme il sera et puis que je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours, même si à un moment donné il sera autonome et qu'il ne sera peut-être pas comme je le rêve. Si je fais un choix d'aller voir mon chef pour oser lui dire quelque chose qui est courageux, lui dire que voilà, j'ai vu tel comportement et que moi je ne suis pas d'accord, ça vient toucher mes valeurs, ben j'assume le fait que peut-être ce choix-là, il va avoir des conséquences.
Il est bon de se projeter dans l'avenir ?
Le choix, il est vraiment dans l'ici et maintenant, mais c'est vrai que je fais un choix en... Par exemple, ça m'arrive de dire, voilà, imagine que tu as fait ce choix et tu es dans 3 ans, et comment tu te sens avec ces besoins? Qu'est-ce que ce choix t'a permis de vivre?
Est-ce que tu regretteras ou pas dans 10 ans, le choix que tu as fait?
Alors, oui, se projeter, je me méfie un peu des croyances qu'on peut avoir sur ce qui peut se passer, mais dans se projeter, ça peut être, par exemple, d'écrire une lettre que je fais. J'imagine que je suis dans 10 ans. Et je célèbre le choix que j'ai fait et les conséquences que ça a eues. Ça peut me permettre vraiment de voir comment je vais faire que ce choix soit vraiment à mon service. Parce que je peux très bien acheter une maison et jamais inviter personne parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Voyez. Tandis que si je fais une lettre, dans 10 ans, j'ai invité telle ou telle personne, on a fait une fête, etc. Ça va me projeter dans aussi, à travers le choix que je fais, comment je vais le mettre en œuvre? Parce qu'on peut faire aussi un choix et ne pas le mettre en œuvre derrière.
Est-ce qu'il est bon d'attendre quand on est en état de crise avant de faire des choix?
Ça, c'est une sagesse de Saint-Ignace que j'utilise beaucoup, moi. Je crois que... C'est sûr que je suis très inspirée par ça. Donc, ma manière de vivre la CNV est très inspirée par ça. Quand je suis en pleine crise, moi, j'essaye de ne pas faire de choix, de changement et de rester sur le choix que j'ai fait. Par exemple, quelqu'un qui fait un burn-out.
Pas qu'il démissionne tout de suite.
C'est peut-être pas pendant le burn-out qu'il faut démissionner. Voilà. Il faut peut-être prendre le temps du burn-out, de la reconstruction, ça peut être long. Hein. Et puis, quand j'ai retrouvé un espace de paix, pouvoir me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant de la suite de ma vie? Et là, ça peut supposer de trouver du soutien, de prendre du recul, de faire un week-end, une retraite, un espace de formation, de thérapie, etc. Voilà, c'est vrai que moi, je suis sensible à ça.
Merci beaucoup, Françoise Keller. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire en 3-4 mots comment faire des choix?
L'écoute du corps et des émotions et des sentiments. L'écoute des jugements et voir que derrière mes jugements, mes pensées, mes croyances, il y a des besoins. l'accueil de la réalité, réagir par rapport à la réalité et pas par rapport à ce que je me raconte. Et l'accueil des besoins et la confiance que nous avons toujours suffisamment de créativité pour prendre soin de l'ensemble de nos besoins.
Et la joie ?
Et la joie, la célébration des choix qu'on fait, des besoins qu'on cherche à satisfaire.
Si on avait un seul critère un peu simple pour savoir quand on a des décisions, qu'est-ce qui me rend le plus joyeuse ? Qu'est-ce qui me rend le plus paisible ?
Comment, à travers mon choix, je vais augmenter ma joie et ma liberté ?
Tout un programme. Merci beaucoup Françoise Keller. Alors je rappelle que nous avons fait une série d'émissions sur la communication non violente qu'on peut réécouter donc en podcast et aussi une série spécifique sur la communication non violente en entreprise. Au revoir.